Le gang des hystériques.
Le gang.
Bim.
La question est que les femmes veulent se prendre en main elles-mêmes.
Je vais montrer justement des femmes noires dans leur pluralité, dans leur complexité aussi.
La plupart d'entre vous le sont.
Attendez-vous.
Ils savent qu'on ne peut empêcher les avortements en détruisant.
Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Gang des Hystéries. C'est une émission féministe proposée par des membres du planning familial à écouter le troisième lundi de chaque mois sur PFM 99.9 et également en podcast sur le site internet de Micro Rebelle www.micro-rebelle.fr. Aujourd'hui dans le studio, on est avec Lily. Bonjour Lily.
Bonjour.
Et avec moi, Touga à la technique. Lily, je te laisse la parole.
Bonjour Touga. Alors aujourd'hui, émission particulière, hein, qui dit rentrée, dit réorganisation, débordement, difficulté à se réunir. Donc le gang, hein, c'est des bénévoles avec une vie tourbillonnante. Et heureusement, Touga aujourd'hui s'occupe de la technique, parce que je vous avais promis le mois dernier que on se formerait et tout, et j'ai pas encore réussi à le faire, donc voilà. Et Touga m'évite donc de ressembler à Renaud dans sa chanson Une bande de jeunes à moi tout seul. Voilà, je fais pas un gang à moi tout seul. Merci Touga. Et aujourd'hui, on vous propose un agenda avec plein d'occasions de rencontrer toutes celles et ceux qui composent le planning. Et puis on parlera un petit peu contraception, avortement, hein, dans le cadre des journées mondiales qui leur sont dédiées. Et voilà, comme émission un peu particulière, pas trop de débat, mais j'avais envie de vous raconter une histoire. Voilà, donc je vous raconterai une histoire juste après tout ça.
Je commence donc l'agenda,
ouais,
avec la première date. Donc le bar LGBTQIA+, c'est le vendredi 1er octobre, de 17h à 20h. Ça se passe à la Maison des Associations de Lens, 45 rue François Gauthier. Donc c'est dans le local du planning. Vous avez envie de prendre un temps autour de jus de fruits, de smoothies et d'un bol de chips pour parler, rire et parfois même pleurer entre personnes LGBT+, du territoire, ainsi que leur soutien. Nous pourrons sortir des jeux de société ou juste prendre le temps ensemble dans la convivialité. Rejoignez-nous tous les premiers vendredis du mois.
Et voilà, et passez-vous le mot. On poursuivra donc par la rentrée des adhérents et des adhérentes le 5 octobre de 18h à 20h, toujours à la Maison des Associations de Lens, 45 rue François Gauthier, le local du planning. C'est l'occasion pour les personnes qui sont déjà adhérentes, mais aussi celles qui nous écoutent et qui voudraient adhérer, de venir à la rencontre des membres qui composent l'association et de discuter. Voilà, il y aura des petites surprises de réserver et beaucoup d'échanges. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, vous pouvez contacter Loïse à son adresse mail, donc loïse.javorski@planningfamilial62.org.
On enchaîne ensuite avec un week-end d'autodéfense féministe en non-mixité femmes, bi, lesbiennes, personnes trans et non-binaires. Ce sera donc le week-end du 9 et 10 octobre de 9h à 11h à Lens.
De 9h à 17h.
À 17h, pardon. J'ai dit quoi?
À 11h.
Oui, non,
là, c'est toute la journée.
C'est toute la journée, voilà. Et c'est sur deux jours. Et donc, c'est deux jours d'atelier d'autodéfense féministe avec Robin de la Contrepoint. Il n'est pas nécessaire d'être sportif ou sportif ou d'être en bonne forme physique. Ces ateliers prendront en compte les discriminations et violences liées à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle. Lors de ces ateliers, vous travaillerez l'autodéfense physique, verbale ainsi que la confiance en soi. Et à noter aussi qu'une garde d'enfants est prévue en parallèle des ateliers, ce qui peut permettre aux personnes donc, qui ont des enfants de pouvoir quand même participer.
Voilà, oui. Et donc voilà, c'est en non-mixité choisie.
Et donc peut-être
pour l'inscription,
donc c'est autodéfense@planningfamilial62.org.
Voilà. On poursuit par une autre date, hein, vraiment un mois d'octobre chargé au planning. Le 16 octobre, on vous invite à partir de 9h. Donc l'accueil se fait à partir de 9h, puis après des ateliers de 9h30 à 17h, toujours dans son local, à la Maison des Associations de Lens, 45 rue François Gauthier, à une journée de réflexion sur la laïcité. Voilà, c'est une réflexion collective, puisque laïcité, c'est un mot qui est beaucoup utilisé ces dernières années et beaucoup, on va dire, tordu, transformé à des fins politiques ou électorales. Et voilà, nous, on avait envie d'en rediscuter entre féministes pour être collectivement au clair avec la loi de 1905 et aussi comprendre les implications des lois qui ont été votées cette année. Et observer la charte du planning familial, du mouvement national au sujet de la laïcité. Donc voilà, on accueille à partir de 9h et vous pouvez avoir plus d'informations à contact@planningfamilial62.org.
Et enfin, on va terminer l'agenda par une dernière date. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autre chose qui va se passer, mais pour le moment, voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Mmh. Ce sera le temps pro-DAS. Alors, je ne sais pas si on dit le S à la fin.
Oui, si on peut dire pro-DAS. Après, c'est un peu un gros mot, jargon professionnel.
D'accord. On l'appelle aussi, et je trouve ça assez mignon, le cercle magique.
Cercle magique.
Voilà. Ouais. Donc, c'est un peu ça moins gros mot. Ouais, voilà, c'est ça. Ce sera le jeudi 21 octobre de 18h à 19h30 à la Maison des Associations de Lens, donc toujours au local du planning familial 45 rue François Gauthier. Et donc, le PRODAS, justement, c'est un programme de développement affectif et social qui vise à favoriser le bien-être et à prévenir les violences en développant les compétences psychosociales, donc notamment la conscience de soi et de ses émotions, la confiance en soi. Et donc, c'est apparemment des techniques qui sont souvent utilisées avec les enfants et les ados. Et ça fonctionne aussi très bien pour des adultes. Cet atelier permet, à travers l'expérimentation, de découvrir et de profiter des bénéfices du cercle magique.
Voilà. Et donc, vous pouvez contacter le planning ou à contact@planningfamilial62.org ou via la page. Et aussi Loïse, toujours à loïse.javorski@planningfamilial62.org. Et voilà, et tout ça, c'était rien que pour le planning pour le mois d'octobre. Et encore, il se passe des tas de choses, hein, parce que vous avez toujours la possibilité d'être accueilli sans rendez-vous, de manière anonyme et gratuite, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Le lundi après-midi de 14h à 18h, le mercredi de 14h à 18h et le vendredi de 14h à 17h.
C'est ça, quel que soit votre âge, votre genre, c'est anonyme, confidentiel et gratuit.
Voilà.
Il y a des professionnels pour vous écouter. Voilà, donc l'agenda se termine. Comme tu le disais, Lily, en intro, le mois de septembre, c'est un mois de deux journées mondiales qui ont pour but de promouvoir la contraception et l'avortement. Oui. Tout d'abord, on va peut-être commencer par cette première journée sur la contraception. Quand c'est ?
Alors, c'est le 26 septembre, donc journée mondiale de la contraception, pour effectivement la promouvoir de manière mondiale, d'où le... Excusez-moi, je pense des portes ouvertes. Et donc, cette année, en France, elle va résonner de manière particulière, puisque après avoir entièrement pris en charge la contraception pour les mineurs, et également les mineurs de moins de 15 ans, même si des fois ça peut être compliqué à entendre pour des adultes et des parents d'imaginer que des mineurs de moins de 15 ans puissent avoir accès à la contraception sans
l'autorisation
de leurs parents, il faut bien imaginer que dans certains cas c'est très important que les ados et pré-ados puissent avoir des lieux où ils sont accueillis dans la confidentialité. Eh bien, cette contraception, elle devient prise en charge également aussi pour toutes les femmes jusqu'à 25 ans à partir de janvier 2022. Alors, c'est une avancée, oui, effectivement, mais au planning, on milite pour le fait que la contraception puisse être prise en charge tout au long de la vie. Et aussi, on attend les décrets d'application pour savoir si tous les contraceptifs seront pris en charge, puisque jusqu'alors... c'était pas le cas. Il y avait une prise en charge surtout sur la contraceptive comme la contraception comme la pilule, l'implant, mais le patch par exemple n'est pas encore pris en charge. Mais voilà. Donc nous on rappelle que la meilleure contraception c'est celle qu'on choisit et qu'on choisit nous-mêmes. hein, pas un corps médical ou nos parents ou tout ça. Voilà, on veut la choisir nous-mêmes et on veut avoir du coup plein de possibilités puisqu'on va changer de contraception tout au long de la vie selon notre mode de vie, notre rythme de vie, notre activité nos pratiques sexuelles. Voilà. Et donc on doit pouvoir changer facilement de contraception, avoir le choix entre la pilule, l'implant, le patch, le diaphragme, la cape cervicale, l'anneau vaginal, les préservatifs, hein, le préservatif interne-externe, les dispositifs intra-utérin, c'est-à-dire les stérilés, au cuivre ou hormonal, mais aussi la ligature des trompes et la vasectomie qui devraient être proposées, accessibles et gratuites. Alors accessible, ça veut dire lutter contre les déserts médicaux, donc la fermeture des centres hospitaliers ou des services dédiés à la contraception et à l'avortement, on va voir un peu plus tard. Et c'est aussi planifier la formation continue des médecins généralistes, des infirmières scolaires, des pharmaciens, des pharmaciennes, à l'entretien autour de la contraception et à l'accueil des personnes en demande de contraception. Ça veut dire aussi appliquer la loi de 2001 et informer à raison de 3 séances d'éducation à la vie affective et relationnelle et sexuelle par an au collège et au lycée. 3 séances par an au collège et au lycée. Avec ça, on peut imaginer qu'on aurait des adolescentes, mais des adolescents qui sont au courant de comment fonctionne leur corps, de comment on négocie une contraception dans un couple. Et où est-ce qu'on peut la trouver et quels sont tous les types de contraception qui existent et qui peuvent être adaptés à sa propre situation. Ça veut dire aussi soutenir la recherche et le développement de contraceptifs masculins pour que la contraception, voilà, la charge de cette contraception ne pèse pas que sur les femmes, puisque la contraception masculine existe et que donc il faudrait un soutien politique pour pouvoir être plus largement diffusé et amélioré. Il faudrait aussi soutenir et promouvoir la vasectomie pour les hommes ne voulant pas ou plus d'enfants. Pour mémoire, 0,8% des hommes en France ont eu recours à cette méthode contre 20% dans les pays anglo-saxons. Donc messieurs, si arrivé à un certain âge, vous ne voulez plus d'enfants ou si vous êtes convaincu que vous n'en voulez plus, eh ben, vous prenez rendez-vous. Vous venez nous voir au planning pour savoir où est-ce que vous pourriez être accueilli par un médecin et vous demandez une vasectomie, c'est un quart d'heure, c'est facile et ça n'a aucune incidence sur la sexualité, l'érection, l'éjaculation, l'orgasme, le plaisir, non, aucune incidence, à part que vous ne risquerez plus de mettre votre ou vos partenaires enceintes dans le cadre de rapports hétérosexuels.
Et donc tu disais que c'est une journée mondiale ce 26 septembre. Oui. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire alors ce 26 septembre ?
Eh bien écoute, moi je proposerais qu'on puisse rendre ça visible, nos interrogations, hein, ce dont on vient de parler le plus visible, donc sur le mur de nos réseaux sociaux par exemple, s'interroger. Ou aussi, ce jour-là, vous en rappeler et noter dans votre agenda et vous dire, bah, tiens, toute la journée, à chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un, je vais aborder la question de la contraception et en parler voilà, aux personnes qu'on rencontre et se donner comme contrainte du jour d'interroger nos conjoints, nos collègues, nos amis et leur dire, voilà, qu'est-ce que tu penses du fait que la contraception ne pèse que sur les femmes ? Ou pourquoi les hommes ne pourraient-ils pas contrôler leur fécondité ? Et si tu veux plus d'enfants, as-tu pensé à la vasectomie ? Voilà, on pourrait essayer de petit à petit faire changer les personnes autour de nous. Voilà, provoquer la réflexion.
C'est ça, que ce soit plus qu'une affaire de
femme.
Juste la femme qui doit prendre ça en plus dans ses charges mentales.
Ça doit être une affaire de couple. Voilà.
Pour avoir des infos. Ouais.
Pour plus d'infos, bah, vous pouvez solliciter le planning via sa page Facebook ou alors par téléphone au 03 21 28 43 25 et en allant sur place, hein, donc comme je le disais plus haut, sans rendez-vous les lundis, mercredis et vendredis après-midi. Après ça, dans le Pas-de-Calais, pour obtenir un rendez-vous gynécologique en vue d'une contraception prise en charge, puisque du coup il n'y a pas de rendez-vous gynécologique au planning familial, mais vous pouvez contacter les centres de planification et d'éducation familiale du département au 03 21 21 62 33.
Super, donc ça c'était la partie information sur la contraception, hein, donc, parce qu'il y a cette journée mondiale le 26 septembre. Tu nous parlais en introduction d'une deuxième journée mondiale en septembre, qui est celle sur l'avortement. Est-ce que tu peux nous en dire plus, c'est quand et pourquoi ?
Alors oui, ce sera le 28 septembre, enfin c'est chaque année le 28 septembre. Et donc cette année, c'est encore une fois une triste année. Je veux dire, c'est pas exceptionnel que ce soit une triste année pour l'avortement. Mais voilà, le droit de maîtriser son corps a encore reculé dans le monde depuis l'an dernier, puisque en fin d'année 2020, déjà la Pologne a restreint sa législation et donc il est presque quasiment impossible pour les Polonaises d'avoir recours à l'avortement. Et puis aussi, bon nombre de pays, enfin les femmes hein, surtout, on doit bien le dire, les femmes et les couples, mais surtout les femmes, payent le prix des suppressions en fait, de financement, de subventions que les États-Unis dédiaient à des ONG, à des programmes financés de par, par exemple, des grands programmes internationaux via l'ONU. Enfin voilà, c'est des choses un petit peu compliquées, mais beaucoup de pays, notamment les États-Unis, finançaient des programmes et l'ex-président états-unien, donc Trump, a choisi d'arrêter ces programmes et donc a coupé les financements et donc a laissé un nombre de femmes qui est difficile de quantifier, sans solution lorsqu'elles étaient en situation de grossesse non désirée. Donc Trump, on sait que c'est un anti-choix notoire, et donc il a donc fait en sorte que partout, le droit à l'avortement soit restreint. Il ne s'est pas arrêté là, hein, puisque on a vu cette année, il y a quelques semaines, maintenant ce sont les femmes texanes, donc au Texas, donc qui est un district...
Un État,
aux États-Unis. Donc ces femmes vont subir les conséquences, encore une fois, de décisions politiques prises par des hommes qui légifèrent en patriarche réactionnaire. Donc voilà, le gouverneur du Texas a décidé de modifier la loi et d'interdire la pratique de l'avortement sur son territoire. Enfin, sur le territoire texan, parce qu'il ne le possède pas, hein, parce qu'il est gouverneur qui possède la population et le territoire, mais il a dû oublier ce monsieur. Et donc, il a également, dans cette loi, ce qui est pas pire, parce que c'est déjà terrible de ne plus avoir recours à l'avortement, mais il a aussi favorisé la dénonciation en fait, de sa pratique, et il permet à toute personne qui aurait pu aider à faire condamner en justice une femme hein, qui aurait eu recours à l'avortement, ou un praticien, une praticienne qui aurait pratiqué une IVG sur quelqu'un, donc de gagner 10 000 dollars. C'est-à-dire que si on sait que sa voisine a eu recours à l'avortement, on peut la dénoncer, il y aura des poursuites mises en route, et si à l'issue du procès elle est condamnée, et ben la personne qui a dénoncé peut recevoir 10 000 dollars de récompense à cette dénonciation.
Un appel à la délation, voilà. Bien puant, quoi.
Absolument abject. La Cour suprême, donc, parce que les États-Unis, donc, c'est des États qui sont unis, et donc il y a une Cour qui peut coordonner le droit, pour faire un raccourci rapide. Donc cette Cour suprême aurait pu modifier ou retoquer cette loi ou empêcher qu'elle passe, et en fait elle ne l'a pas fait, puisque toujours ce même président, Trump, a permis qu'un homme extrêmement réactionnaire, un anti-choix de plus, soit nommé à cette Cour, et donc fasse basculer le rapport de force. Et donc, voilà, les femmes, on a découvert avec la situation au Texas que les femmes de tous les États-Unis n'ont plus le droit fédéral en soutien. C'est une déflagration majeure pour toutes les femmes du monde, hein, puisqu'elles placent les États-Unis au même rang que n'importe quel pays au patriarcat brutal. Alors, il y en a plein qui rigoleraient en disant, de toute façon, on le savait, les États-Unis sont un patriarcat brutal. OK. Mais ils ont des prétentions, on le sait, hein, via leur guerre ou les guerres commerciales ou même guerre hein, militaire. Donc ils ont des prétentions civilisatrices et moralisatrices et en fait qui ne correspondent pas du tout à ce qu'ils mettent en place sur leur territoire. Et donc voilà, on peut toujours citer ce que Simone de Beauvoir avait prédit. En nous disant, n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante votre vie durant.
Voilà, donc croire que l'histoire est évolutive et permet d'avoir chaque année, chaque décennie, chaque siècle plus de droits, finalement, c'est un leurre. Et puis, comme tu disais, toujours être vigilante et vigilant au fait qu'on fasse le patriarcat il tape fort et que nos droits peuvent toujours être remis en question. Et j'ai envie de te demander, du coup, comme pour la journée sur la contraception, Là, pour le 28 septembre, donc journée mondiale sur l'avortement, qu'est-ce qu'on peut faire
Mais alors, on peut diffuser les infos qui seront aussi postées via les pages des différents plannings que vous pouvez suivre, peut-être le planning confédéral. Ou le planning familial 62, mais aussi, on a des petits slogans comme « Mon corps, mon choix » que vous pouvez peut-être écrire, faire un badge, l'avoir sur vous, ou à votre fenêtre, ou sur votre voiture. Rendre visible le fait qu'on s'inquiète pour le droit à l'avortement. Et puis j'avais envie de faire un dernier parallèle. Je trouve que du coup, ce mois d'août-septembre, avec ces décisions-là au Texas et tout, je voulais faire un étrange parallèle, puisque les États-Unis se sont retirés de l'Afghanistan après 20 ans de guerre impérialiste complètement inutile, et ils n'ont pas réussi à installer quoi que ce soit de leurs prétentions civilisatrices et moralistes, parce que les femmes afghanes ne peuvent pas avoir recours à l'avortement, et j'ai envie de dire que les femmes afghanes et les femmes texanes peuvent être maintenant sur un espèce de combat unitaire où les hommes de chacun de ces pays n'ont pas de leçons particulières à se donner, puisqu'ils sont toujours unis sur le dos de la condition féminine.
Je propose de tout de suite faire une pause musicale.
Ouais.
Vous êtes toujours donc dans l'émission du Gang des Hystéries, hein, émission féministe proposée par des membres du planning familial. On est toujours Touga et Lily dans le studio. Donc c'est une émission qui est rediffusée, je le répète, le troisième lundi de chaque mois sur PFM 99.9 et sur Micro Rebelle. Je te laisse. Donc on vient d'entendre, comme musique, Lily. Je te laisse peut-être présenter le morceau.
Bah oui, morceau à point, je veux dire, après avoir parlé de contraception et d'avortement, donc un morceau de Petra Pied de Biche, Bébé. Voilà. En attendant que le gang s'enhardisse et revienne en force, j'avais envie de vous raconter une histoire, ou au moins le début d'une histoire que j'ai écrite, sur des faits. Comment on s'est dit dans les films américains là, inspirée de faits réels, ou toute personne qui se reconnaîtrait, truc purement fortuit, inspirée. De faits réels, voilà. Zrou el wishtay to hasbaki hadira sidile عيد كاساي مدبي مكادني سمالي امسيلي اموت صوتا زين دبل كو ابسبي في الليل
Février 2008. Le cœur me bondit dans la poitrine. Je suis désorientée, il fait noir. Je me cogne dans un barreau. Un barreau en fer. Je commence à me reconnaître. Mon lit, peut-être. Je prends conscience de la lumière bleutée du téléphone. Abbé Michel. L'écran m'indique Abbé Michel. Enfin, depuis quand un curé m'appelle en pleine nuit, moi ? Je me réveille en sursaut, le téléphone à la main. Abbé Michel, c'est Michel, papa Michel, qui me crie dans l'oreille que la mafia est là, les Soudanais, la gendarmerie. La gendarmerie a rien compris en anglais, alors les gars du camp l'ont appelé. J'arrive devant chez toi. Je saute de mon lit et de mon pyjama en pilou-pilou blanc avec des petits nounours écrit « Nobody's Perfect » dessus, donc mon préféré, je saute direct dans mon futal. En haut, j'enfile seulement une veste, ça fera l'affaire. Je suis dehors au bord de la route, encore groggy de ce réveil brutal. Déjà, les phares m'éblouissent. Arrêt sec, je monte et aussitôt, il redémarre. Au travers des phares, le même paysage familier défile. Arbres, haies d'arbustes, de ronces et de liserons, vaches endormies. Pourtant, le film est différent. C'est la plateforme de Villeneuve-d'Ascq qui répond aux appels de nuit. Ils comprennent pas l'anglais. Ça criait, oulala, les Soudanais. Peut-être Jezira, les Kurdes, ou le Rasta. Enfin, j'ai pas tout compris. C'est moi qui appelais la gendarmerie de Noronfonte, me raconte Michel. J'intègre les infos. J'ai à peine le temps de m'offusquer que la plateforme régionale de la gendarmerie nationale ne puisse pas prendre d'appel en anglais. Mon cerveau avale les infos et déjà on est à l'entrée du village de Noronfonte. Tout est calme, évidemment, un soir en France rurale au milieu d'un village de 1000 habitantes. On passe devant le Tom Tip, haut lieu de sociabilisation du coin. Dernier halo de lumière. On franchit le virage avant le centre du village. On croise une voiture. Là, derrière, dans la pénombre, une masse sombre hérissée de pics nous fait face. Silhouette bonnetée ou encapuchonnée, armée de bâtons, telle une garnison de paladins. La masse auréolée de lumière se fend comme un banc de poisson. Une voiture la traverse lentement et réaccélère sans demander son reste. L'anecdote occupera sûrement de nombreux repas de famille. Michel et moi, moitié catastrophés, moitié rigolards, on se regarde pantois. Une camionnette de la gendarmerie s'immobilise sur le trottoir de droite. Je saute de la voiture et rabats tout de suite le groupe vers le trottoir de gauche. J'essaye d'expliquer que les villageois ne vont pas se remettre d'un tel attroupement la nuit,
Mais déjà, on me pousse dans la ruelle qui mène au cimetière. Tout le monde. Hommes, femmes, ados, tous sont là. Tous parlent en même temps. Mon cerveau intègre quelques infos. Attaque, soudanais, mafia, kurde. Yémané, le journaliste, Salomon, le prof, m'entreprennent et tentent de m'expliquer. Les Kurdes réclament un loyer aux Soudanais. Ce serait au groupe de payer. Refus, bagarre. Ils ont raté le fameux Rasta. Mais ils ont un Kurde. À moi de le donner à la police. Mon cerveau intègre les infos. Sans plus de détails, on me pousse vers le mur. Dans une forêt de jambes, un homme, une masse, une baraque, même assis. De son front dégarni s'échappe un filet de sang. Son regard paniqué s'accroche à mes yeux. Ses bras semblent attachés dans le dos. C'est entre soulagement et tentative désespérée qu'il me demande de l'aide. Il passait par là, il s'arrêtait pour pisser, attaqué par des sauvages. Je m'entends lui dire que je suis un peu au courant du bordel. Aucun mal ne lui sera fait. Il retombe alors comme un soufflé, silencieux. C'est raté. Un Kurde. J'ai l'estomac qui remonte au cœur, ou le cœur qui descend dans l'estomac, je sais plus trop. Un Kurde. J'ai pas le temps de laisser tous les stéréotypes jungliens racistes remonter. On me colle son portefeuille et son téléphone dans les mains. Cache ça, cache ça! Aïssam me dit de cacher ça. Mon cerveau intègre les infos. Machinalement, je range le tout dans mes poches sans comprendre. Déjà, le groupe me pousse vers la rue. Michel a accueilli les deux gendarmes qui, finalement, sont descendus du véhicule puisqu'on avait l'air de gérer. Deux gendarmes. Deux magnifiques gendarmes armés chacun d'une paire de fabuleuses bacchantes. Anachroniques bacchantes. L'une châtain, l'autre tirant un peu vers le roux. Je prends un air qui dit « Tout va bien? Tiens, vous ici ?» Je tends la main et d'une poignée ferme, je les salue. Le Kurde menotté me talonne. Je prends alors conscience qu'un pan de mon pyjama pilou-pilou dépasse de ma veste. Nobody's perfect. Bonsoir, abbé Michel Delannoy. Bonsoir, brigadier Cucu. Bonsoir, brigadier Quenelle. Mais comment en est-on arrivé là ?
Quelque part, fin des années 90.
Je suis encore en retard pour aller au lycée. Le bus passe trop tôt et puis ma mère semble se sacrifier sans vraiment rechigner. Alors j'en profite. Elle me conduit un peu avant 8 heures. Elle le fait en pyjama et en pantoufles, entre deux tartines avant d'aller bosser. On roule à bonne allure sur la route principale de Bourec, mon village natal, là où se sont installés mes parents en 78, un peu avant ma naissance. Petit village en forme d'anévrisme attenant à la route nationale 43 qui relie Béthune à Saint-Omer et qui va jusqu'à Calais. À certains endroits, elle suit l'autoroute dite des Anglais, grande route bordée de platanes qui voit se côtoyer tracteurs, camions, voitures et les derniers manouvriers, quasi vestiges du Moyen-Âge, qui eux se déplacent à vélo pour vendre leurs bras dans les fermes du coin pour une bouchée de pain. C'est presque les seuls qu'on puisse voir encore sur les routes, avec les quelques familles ou jeunes couples encore trop pauvres pour se permettre une voiture. On fait signe à Jean-Paul, justement, qu'on croise déjà sur le pont. Il doit revenir d'une course à Lillers avant d'aller embaucher à la ferme à Bourec. Bleu de travail, en vrai jean, pantalon et veste. Toujours le même. Casquette imperméable à doublure moumoute et cache-oreille rabattable pour l'hiver. Jean-Paul, quoi. Buriné par le soleil et le vin rouge. Les mains façonnées par la terre argileuse du coin et le DDT, ou les résidus de napalm, qui pulvérisent consciencieusement aux doses indiquées sur le bidon. On atteint cet endroit où naît l'anévrisme de Bourec, où sa route principale rejoint la nationale. Et là, sur le bas-côté, 1, 2, 6, 8, oh là, peut-être une quinzaine encore, de Lillers vers Noranfonte. Comme souvent, mais on est incapable de se dire quand on en a vu la première fois. Ils finissent par se fondre dans le paysage. C'est eux qui marchent maintenant sur cette route. On se demande ensemble, ma mère et moi, ce qu'ils foutent là. Oh, se perdre dans nos coins paumés. On dirait des Arabes. Moi, je ne trouve pas. Ou de loin. Pas vraiment, en fait. En tout cas, ils font pas couleur locale. Faudrait qu'on s'arrête un jour pour leur parler. C'est quand même loin, sans gâte. Et puis, on reparle lycée, maison, quotidien. Cette conversation, je l'ai eue pendant plusieurs années, sûrement. Les années lycée, fin 90, les années fac, années 2000. Qui sait quand ça a commencé? Un jour, en allant acheter mes cigarettes au tabac de Noronfonte, la tôlière discutait en anglais avec deux hommes qui avaient l'air de venir de loin, de par leur faciès, mais aussi et surtout de par leur tenue, incongrue, ringarde, râpée, voire sale. Trop couverts, ils repartaient dans le froid après quelques remerciements échangés. Curieuse, j'avais interrogé la tôlière. Elle me confiait qu'elle les aidait, leur rendait des services comme laver un peu de linge, téléphoner. Eux donnaient des cours à sa fille, anglais, maths, physique. Certains étaient médecins chez eux. Chez eux? L'Irak, pour cela. C'est des bons gars, qu'elle disait. Ils avaient souvent besoin d'aller à l'hôpital, mais ça, elle ne le faisait pas, elle ne pouvait pas. Moi, je m'étais contentée de ces infos. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient bien faire là? Et puis est venu Sangat, le cirque médiatique, la construction de carrière politique, son démantèlement, la vue des queues interminables d'hommes à la télé. On apprend leur provenance. Kosovo d'abord, Irak, Iran ensuite. On écoute les témoignages. C'est dans la télé. C'est pas si loin, Sangat, mais c'est déjà trop éloigné, concentré sur un petit confetti. Un hangar dans la campagne d'un port du Pas-de-Calais. Peu de rapport avec nous. Et puis on est occupé. Et puis les groupes d'hommes, les grappes, se sont faites plus régulières sur nos routes, plusieurs fois par semaine, puis chaque jour. 1, 2, 6, 15, 25. Toujours munis de sacs plastiques estampillés Lidl. Les têtes ont changé. Pas les mêmes coiffures. Cheveux toujours très noirs, hommes plus grands, plus élancés, plus jeunes aussi, peu à peu. Les tours devaient déjà être tombées à New York, les troupes américaines devaient être en Afghanistan depuis quelque temps. Et puis, les têtes ont encore changé. Elles sont devenues noires. Et puis, les femmes se sont mises à marcher. Et puis, les enfants. Et là, ça a acheté un froid. Monsieur de la cuisine, celui qui jardine la parcelle à côté de celle de Jean-Paul. Jean-Paul et Félix, l'ancêtre du bas de la rue qui fait son tour tous les jours jusqu'au jardin de la rue de Côte, discutent entre eux comme à l'accoutumée. Mais cette fois-ci, ils sont inquiets. Ils s'enquièrent de l'avis de mes parents, les enseignants, l'adjoint au maire. Ils doivent savoir, eux, c'est sûr. C'est une invasion, c'est Kosovar, moi je dis. Ils viennent comme ça en petit groupe, là. Les Allemands aussi, en 40, ils sont arrivés en petit groupe. Et puis ben, on sait bien comment ça s'est passé, hein. Je suis éberluée. Du haut de ma vingtaine, jamais j'aurais pu imaginer la référence à l'invasion allemande. Mon père ne sait comment trop réagir et tente de rassurer. Moi, je débite ce que j'ai entendu à la télé. Rien à voir, ils fuient, guerre, Afghanistan, Irak, cherchent refuge, quoi. Et puis, c'est pas des Kosovars. Ouais, mais les Noirs, ça colle pas. On n'a rien entendu pour les Noirs. Y a rien à la télé. C'est pas faux. On doit être aux alentours de 2005. En fait, c'est près de 2 ans après le début d'événements au Darfour, province soudanaise. Événements, c'est comme ça qu'on appelle une guerre ou des massacres en Europe quand ça se passe chez le noir, en Afrique. Alors les têtes se sont noircies, mais ça n'expliquait pas les femmes, les enfants, qu'on n'avait pas vus pour les guerres d'Irak et d'Afghanistan. On est aux alentours de 2005, et je suis pionne en internat. Je me suis fait ma meilleure amie, Steph. Battue comme plâtre par une mère folle et pas devant un père faible et idiot, elle survit avec son pécule de pionne qu'elle essaye de conjuguer avec des études de psycho. Hérésie pour l'aide sociale à l'enfance, elle aurait dû faire un CAP ou un BEP au mieux. Pour oublier tout ça, on a écumé les boîtes du coin. Alors pour lutter contre l'intuition d'inutilité de notre existence, on a fait quelques maraudes pour le SAMU social à Lille. Quand est-ce qu'on a appris l'existence d'autre chose que Sangat? Quand est-ce qu'on a su que la présence d'un camp dans les champs, quelque part autour de Saint-Hilaire-Côte et Noronfonte, expliquait les marcheurs? Je ne me souviens plus. Ça faisait partie du paysage. C'était juste comme ça. On est aux alentours de 2005 et j'attends Steph à la gare de Lillers. Avec elle descend tout un groupe de personnes noires, un peu grosses, engoncées dans des blousons moches. Plein de femmes et une petite gamine de 2 ou 3 ans à peine. Steph monte dans la voiture et en un seul regard échangé, on sait qu'on va faire un détour. On se lance. Quelques mots d'anglais maladroits ont fait comprendre qu'on peut leur éviter une dizaine de kilomètres, surtout à la petite. À notre surprise, l'ensemble du groupe commence par refuser. Les femmes surtout. L'homme du groupe semble hésiter, mais être gêné. Peut-être de refuser un service. On insiste un peu en montrant l'enfant. Finalement, une partie du groupe se décide. Trois femmes entrent dans la voiture, se serrent et compressent leur sac Lidl. La petite monte entre les jambes de l'une d'entre elles. Puis, devant nos têtes offusquées, l'homme entre aussi, poussé par les femmes restées dehors. On essaye de s'interposer et de dire à l'homme qu'il pourrait laisser la place à une femme. Notre féminisme naïf le trouve gonflé quand même. Il ne bouge pas, grands yeux fixes, sourire gêné. Puis une femme plus âgée s'impose et d'un ton ne laissant aucune équivoque, m'intime de laisser l'homme dans la voiture et de fermer la porte. Je suis décontenancée, mais elle fait mine de descendre et de faire descendre tout le monde. Je suis à mille lieues d'imaginer que cette rencontre amorcera un profond bouleversement de ma conception toute occidentale et presque adolescente des hommes et des femmes. À mille lieues de comprendre que ces femmes capables de traverser le monde à pied pour donner un avenir à leurs enfants pensaient avoir besoin d'un homme pour les protéger de nous, de moi. On se fait la conversation le temps du trajet. Je suis tout excitée de découvrir le lieu exact où elles se rendent. On leur demande d'où elles viennent. L'homme nous répond « Ertra ». On répète bêtement, en faisant semblant de savoir où c'est. Tous ont l'air rigolards. La petite pétille et nous chante tous les mots qu'elle connaît en anglais. On arrive presque au bout de Saint-Hilaire-Côte. Une des femmes m'indique un chemin de remembrement qui quitte la route principale en face du dernier dancing du coin et s'enfonce à travers champs. Je m'y engage et là, elle me stoppe. Autour, rien. Un tas de betteraves fourragères, un champ de maïs tardif réservé à l'ensilage, un autre de patates brûlées au pyraflufène. J'insiste pour les conduire encore plus loin. Les femmes refusent. L'homme reste muet et plein de ce qui me semble être de la gêne. Je n'insiste pas et les dépose. La petite vient nous coller un bisou sur la joue et court rejoindre les adultes déjà en marche en nous lançant « Buongiorno, bonjour, hello !» un mot dans la langue de chaque pays qu'elle a déjà traversé. On se précipite chez moi racontant à ma mère la rencontre. Elle, accusant la fin de la frustration, imagine apprendre enfin d'où elles viennent. On lui dit « Ertra ». Mou, dubitative et honteuse, on ne connaît pas. On se jette sur l'atlas mondial. Afrique. Afrique du Nord. Afrique de l'Ouest. Afrique centrale. Corne de l'Afrique. Afrique du Sud. Rien. Damned. Encore raté.
Été 2006.
On reprend notre routine, job, fac, loisirs, quotidienneté. Aucune occasion ne s'est présentée de pouvoir en savoir plus, entrer en contact, assouvir notre curiosité, ma curiosité. Et puis mon contrat de pionica s'est terminé. Plus de temps, la curiosité plus ardente, je me promène parfois à vélo dans ces fameux chemins de remembrement qui séparent champs, jachères, fossés et chemins communaux croqués par les cultures. J'y emmène même ma sœur et une amie, Anne, installée à Marseille depuis quelques années, ayant vécu dans différentes grandes villes européennes. Elle se marre à l'idée que je pense qu'elle va me suivre à la recherche de ce camp. Ah ouais, et tu crois qu'on va se pointer là, comme ça, trois meufs dans un camp? Et qu'est-ce qu'on va dire? Et qu'est-ce qu'ils vont penser? Trois meufs blanches en plus, ils vont pas du tout se faire des idées. Elle est morte de rire et me dit qu'elle n'ira pas. Ma sœur a plutôt l'air d'être d'accord avec elle. Ça me saoule. Mais bon, c'est elle qui a vécu à Paris, Marseille, Lisbonne, au Maroc même. Je ne dis rien et me prends le couplet de la femme victime et de l'homme prédateur. Et puis moi, je vis à la campagne, un patelin minuscule. Tu te rends pas compte. Il se passe rien, à première vue. On embraye sur les lourdingues qui nous interpellent dans la rue, on se marre en l'écoutant nous raconter l'invention du Rape-X, un dispositif intravaginal qui se plante comme un hameçon dans le pénis non invité et provoque une douleur atroce, laissant le temps à la femme de se barrer en courant. Bon, je n'ai pour autant pas l'intention de laisser tomber. Une fin d'après-midi d'automne où je m'apprête à sortir au restaurant avec ma sœur, je manque de clopes. Je fais un saut au tabac du coin, au bon accueil. Chaque fois que j'y entre, je me souviens d'y avoir joué au fond, dans les grandes salles à l'arrière prévues pour les repas de famille, les communions, les thés dansants, les concours de belote, avec les copains de classe et les jumeaux, fils des propriétaires. Vieux bouge, tradi, bar haut en formica marron, tabouret en bois, sans dossier, miroir derrière les étagères, nous vantant les mérites des sodas, jus de fruits et whisky en vente ici. Sur la gauche, les boissons. Sur la droite, les clopes, paquets de tabac, cigares et cigarios et jeux à gratter. Côtoient les sucettes, les chewing-gums et la dernière trouvaille dégueulasse que le représentant aura réussi à refourguer au taulier. Pendant un temps, je pouvais même avoir des clopes quand c'était fermé. Je gueulais à la fenêtre avant d'aller en virer. Et Seb, l'un des jumeaux, me jetait les clopes de l'étage et je délirais à essayer de lui lancer l'argent de la même façon. Finalement, il descendait, ouvrait et on prenait des nouvelles des uns, des autres, de la famille et on se promettait de se faire une virée un de ces quatre. Moi, à la fac, lui, en train de galérer, on se rendait compte en silence qu'on ne faisait plus vraiment partie de la même team. Aujourd'hui, quand j'entre, à la même odeur de tabac froid et de relents de bière, s'ajoute une vague odeur de graillon. Les propriétaires ont changé, l'ambiance est toujours là, moins les passe-droits pour les clopes. Les gens du coin, des hommes en majorité, plutôt ronds, souvent moustachus, rougeaux ou teint gris, barbe de quelques jours, une ou deux femmes parfois, petites, émaciées, voire rock. C'est plutôt de la bière qu'on boit ici, ou du vin rouge dans de petits verres à ballon. On joue parfois aux cartes, parfois aux dés. On lit la Voix du Nord et on commente à voix haute l'actualité. Et tout le monde y va de son avis, de son constat. Rien ne va plus, ma bonne dame. Deux hommes ont repris l'endroit. Même taille, mais complètement différent. L'un est très maigre, l'index et le majeur jaunis par la nicotine, la coupe mulée des années 80, cheveux grisonnants, filasses, le regard bon, sourire en coin, toujours très doux et bienveillant. L'autre est plus rond, posture cambrée, plantée sur son bassin, ventre rebondi, poussé en avant, chemisette à carreaux. Toujours marron, comme le décor. Les yeux enfoncés en arrière avec une expression entre la méfiance et la scrutation perverse, menton en avant. Pas toujours ensemble derrière le comptoir, l'un juché sur un tabouret à se taper la discute, l'autre debout vers les clopes prêts à vendre. Je serai sûrement une des dernières à apprendre qu'ils sont gays. Ils ont fait ce tour de force-là, ces gars-là. Rendre les PD gays dans ce coin-ci. Fallait le faire. Être gay et tenir un bar ici. Être gay et reprendre un lieu tradit comme le Bon Accueil. Moi qui vais à la ville et voyage un peu, voir les PD devenir gays et les insultes murales disparaître un peu, ça adoucit le regard que je porte sur mon coin. Je vais jusqu'au comptoir et j'attends de pouvoir commander mes camels. Mais le rondillard est occupé avec deux hommes. Visiblement, ils ne parlent pas français et tentent de se faire comprendre en anglais. Et ça n'a pas l'air facile. Jeune, noir, manteau moche et trop grand, parlant anglais, l'occasion est trop belle. Je propose au patron mes services en traduction. Il décline. Je lève un sourcil en accent circonflexe, car toujours visiblement, il reste comme trois ronds de flanc dans une incompréhension gênante. Je demande mes clopes et ajoute en anglais. « I just could help to translate. » J'aurais pu aider pour traduire. Je suis servie et m'apprête à sortir quand le plus petit jeune noir m'interpelle et semble s'extasier sur le fait que je parle anglais. Il me propose de boire un café. Son amie plus grande, au moins deux têtes, appuie sa demande avec le regard et un grand sourire. Ça ne m'arrange pas, je suis pressée et je ne suis pas supposée m'attabler dans ce genre de bar. Quelque chose de l'ordre de ma condition sociale ou de mon genre me l'interdit, sans que j'en aie pris conscience. Mais l'occasion ne peut se rater. Assise, la gêne devient plus grande. Le reste du bar nous regarde. On échange quelques banalités, dont encore les félicitations pour mon anglais. On rit sur le fait que, dans le coin, les langues étrangères, c'est pas la spécialité. J'évite de préciser que je rentre tout juste de 6 semaines dans un paradis fiscal anglais où j'y ai fait femme de ménage, espérant améliorer mon anglais. Mais c'est bien cette expérience-là, et pas l'école, qui me permet de tenir la conversation avec ces jeunes du bout du monde. Enfin, je peux avoir quelques réponses. Ils viennent d'Ertra. Je fais encore semblant de comprendre par politesse ou par honte. Ils rient et me demandent si je sais où c'est. Je leur demande de répéter et leur dis que je ne comprends pas le nom de leur pays. Érythréa. Érythréa. Ertra. À côté de l'Éthiopie. C'est tout petit d'après eux et indépendant depuis peu de temps. 1991 exactement. Je leur promets de chercher des infos et je m'excuse 1000 fois de mon inculture. À la question « Qu'est-ce que vous faites ici ?» ils répondent comme une évidence qu'ils vont en Angleterre. Comme je ne comprends toujours pas, ils m'expliquent qu'il y a un camp pas loin et que de là, ils essaient de passer en Angleterre. Parce qu'ils parlent anglais et qu'ils y ont de la famille. Comme je ne peux pas rester, je leur demande s'ils ont des besoins particuliers. Ils déclinent d'abord, mais devant mon insistance, ils osent suggérer des couvertures. Je leur propose de déposer ce que je peux rassembler ici au bar, que j'en parlerai au patron. Ils ont l'air dubitatifs, mais me remercient. Je me précipite chez moi et raconte tout ça à ma mère et ma sœur. Et avec ma mère, on se jette à nouveau sur l'atlas mondial et on passe vite les pages. Afrique, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest. Enfin, corne de l'Afrique. Mais rien. Autour de l'Éthiopie ? Rien non plus. C'est pas possible, on doit rater quelque chose. Je referme l'atlas et cherche sur les couvertures. Le réouvre et cherche sur les quatrièmes et les premières et dernières pages. Enfin, je trouve. Imprimé en 1986. Ça doit être ça. Ils m'ont dit que leur pays était indépendant depuis 91. On se jette à nouveau sur la carte du continent africain et enfin, là, en petit, la police d'écriture en italique, suivant la côte de la mer Rouge, pas à l'horizontale comme un nom de pays, ni même une capitale. Je trouve à l'est du Soudan, au nord de Djibouti, Érythrée. C'est pas Érythréa, mais ça y ressemble. Faudra creuser. Ma mère me file deux couvertures et me demande si des noix pourraient les intéresser. Je prends le carton de noix et jette les couvertures dans la voiture de ma sœur. On fait le crochet pour déposer le tout dans le bar et revenir à notre soirée. Ma sœur râle déjà. Arrivés là-bas, les deux jeunes y sont encore. Ils nous voient arriver toutes les deux, tout surpris. Le plus petit affiche une mine satisfaite. Le grand a l'air ahuri de reconnaissance. Ils sont beaux, très différents. Très fins, sourcils marqués, peau glabre, dents blanches. Le plus petit a un air de fouine, des cheveux frisés en petites crolles repliées sur elles-mêmes et brillantes, peut-être huilées. Elles me font l'effet des cheveux à la Gomina de mon grand-père. Le plus grand est rasé, cheveux semblant crépus, visage rond comme un poupon. Je leur propose les couvertures et les noix en leur mettant dans les bras. À ma grande surprise, le plus petit a l'air embêté et m'explique que c'est difficile à transporter. Je suis décontenancée. L'extrême politesse infligée à mon genre, par mon éducation, le trouve culotté de réclamer d'être conduit alors que je lui donne royalement deux vieilles couvertures et un carton de noix qui aurait fini sèche et pleine de poussière dans notre grange familiale. Le plus grand a l'air embêté et fait des tas de « non, 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 non » de la tête, puis des sourires et des signes mimants que « tout ira bien, oui, oui, merci, merci beaucoup ». Ma sœur s'agace, le trouve gonflé aussi, j'imagine. Elle ne veut pas être en retard. Ok, mais c'est quand même l'occasion de voir où il crèche. Depuis le temps que je cherche, on fera vite, allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Je remise le tout dans le coffre et fais basculer le siège passager de la vieille Saxo trois portes pour laisser le grand s'asseoir derrière moi. Le plus petit s'installe derrière ma sœur qui conduit. Juste avant la sortie de Saint-Hilaire-Côte, on prend le chemin de remembrement qui s'enfonce dans les champs direction l'autoroute de Reully, où nous renfonte. On roule un moment, on tourne à droite, à gauche, selon leurs indications, puis on s'arrête tout près d'un grand monticule de betteraves fourragères. À l'ouest, on distingue à peine l'autoroute et un petit bois qui, je l'apprendrai plus tard, cache la station-service de Saint-Hilaire-Côte. Du côté opposé, une ligne d'arbres avec à leurs pieds de la végétation plus dense. Rien d'autre. Des champs et c'est tout. Je suis un peu déçue, je sens qu'ils vont me faire le même coup que les autres, quelques mois plus tôt. Je ne comprends pas. Tout en laissant le grand sortir de derrière mon siège, je lui demande où ils sont installés et il me montre cette ligne d'arbres au loin. « There, we have a small shelter. » Et d'un coup, il m'attrape la main de sa main droite, place sa main gauche en dessous de nos mains entrecroisées et en me regardant droit dans les yeux, me remercie chaudement et m'explique comme c'est important pour lui. C'est à ce moment-là que j'entends la voix de ma sœur derrière moi. Alors que d'habitude, elle est plutôt du genre à aboyer et à ne pas comprendre que l'on se sente agressé. Là, je l'entends hésitante, presque géniarde. « Ah, ah, Lily ! Au secours !» À ce moment-là, mon regard croise celui du grand type qui ne m'a toujours pas lâché la main et regarde la scène au-dessus de mon épaule. Je m'aperçois que ses yeux commencent à sortir de ses orbites, que sa bouche s'arrondit en une forme d'hébétude choquée. Je tourne la tête et sans comprendre, j'observe la scène également. Le plus petit a dans la main droite la main de ma sœur, comme pour lui dire au revoir, mais il l'a attirée vers lui et a passé son bras gauche derrière elle et glissé sa main jusqu'à l'arrière du cou pour la maintenir tout près de lui. Ma sœur se contorsionne pour éviter la tête du gars qui semble s'enfouir dans son cou. Je ne comprends pas. Tout en même temps, je regarde à nouveau celui qui tient toujours ma main et qui secoue la tête d'un air de « ne me demande pas ce qui se passe ». Je lance tout haut un « Mais qu'est-ce qu'il fout, lui ?» offusqué. Et ma sœur répond gauchement dans un cri peu assuré « Ah ah, il essaye de m'embrasser, fais quelque chose !» Je ne comprends pas. Ma sœur, c'est la meuf qui a fait une centaine de kilos pour 1m75 avec des bras de bodybuildeuse et qui a eu ses permis voiture et moto comme une formalité, qui est allée jusqu'à l'étrier d'argent en équitation et qui pouvait tomber 15 fois en une séance. Elle remontait toujours. Qui a eu le chamois d'or ou un truc comme ça en ski alpin. Celle qui s'est taillée une renommée dès le collège en collant une baffe magistrale au type le plus populaire qui venait de lui mettre une main au cul dans la queue de la cantine, juste pour la gloriole. Et là, la voilà tétanisée devant un petit rat-tête chétif à qui elle pourrait décrocher la tête d'une seule main ou retourner comme une crêpe. Je l'interpelle vertement d'un « Oh !» Il ne s'arrête pas. Je réitère plus fort. « Stop !» Il continue. Ma sœur en est toujours un « Ah !» L'autre gars derrière moi a un espèce de gargarisme indéterminé. Je hurle un « Stop it !» en tapant sur le toit de la voiture comme une brute. Bang ! Il s'arrête, se tourne vers moi avec un sourire niais et nous lance un « But you are very nice. Vous êtes tellement sympa. You came with us. Vous êtes venu avec nous. » Sa réplique m'interpelle, mais je ne me laisse pas déstabiliser. Je lui beugle dessus tout le scandale de son attitude, lui balançant qu'il avait intérêt à se méfier, qu'il choisissait l'Angleterre et que là-bas aussi les femmes et des hommes pouvaient boire un café ou monter en voiture sans que ça implique autre chose. J'ordonne à ma sœur de remonter dans la voiture. Elle sort de sa sidération et je remonte moi-même en claquant la portière et en lançant un « Welcome in Europe, revanchard ». La dernière image que j'ai d'eux, c'est la tête du grand mortifié par la honte et celle de l'imbécile mine sceptique. On roule un moment, en silence, puis ma sœur lance un « Oh, toi et tes conneries aussi !» Dame Ned, c'est encore raté. Je suis blasée. Me reviennent en tête les images et impressions d'un type à la fac avec lequel je m'étais retrouvée coincée à la rue un soir de semaine à Arras. N'ayant pas encore compris le traquenard, je me vois contrainte de prendre une chambre d'hôtel plutôt que de dormir dehors. Je me rappelle rectifier la proposition de l'hôtelier et demander deux lits simples, puis comprendre trop tard pourquoi ce sale merdeux avait eu l'air de faire la gueule. Dans la chambre, sur mon lit, alors que je m'apprêtais à m'endormir, il m'avait sauté dessus. Littéralement. Il avait d'un bond franchi l'espace entre son lit et le mien et m'était atterri dessus, tentant de m'embrasser. Je m'étais débattue, essayant en vain de le repousser hors du lit en m'offusquant d'un simple « Mais arrête, qu'est-ce que tu fous ?» Et l'autre n'avait rien trouvé de mieux pour justifier son attitude qu'un « Je te trouve vraiment sympa !» J'étais restée interdite. Avant de me marrer, cynique, « Bah putain !» Heureusement que je ne saute pas sur tous les gens que je trouve sympas. Non mais sans déconner. Allez, bonne nuit. Elle avait viré de mon plumard. Il faut que je me rende à l'évidence. Il se peut que tous les humains se ressemblent, les hommes y compris. Il me faut une clé d'entrée pour aller à la rencontre de ces gens venus de tellement loin.
On se quitte pour ce mois de septembre et on se retrouve le mois prochain en octobre.
Au revoir et la suite au prochain numéro.
Le gang des histoires.
Le gang. Pouf.